Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de partir en vadrouille avec vous. Comment vit-on ailleurs? C'est la question qu'on se pose chaque dimanche avec les correspondants et reporters d'Europe 1. À Édimbourg, par exemple, les Écossais vivent au rythme des rebondissements du Brexit et se disent de plus en plus qu'il ferait peut-être bien finalement de voter leur indépendance puisque Londres n'écoute pas leur point de vue. On sera à Édimbourg. Au Mali, la population du centre du pays vit au rythme des attaques intercommunautaires. Plus de 160 morts, tout un village massacré en pays Dogon il y a 2 semaines. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On sera à Bamako. Au Japon, on vit presque déjà au rythme de la nouvelle ère qui s'ouvrira le 1er mai, celle du futur empereur Naruhito. Et le nom de cette nouvelle ère a été annoncé cette semaine, édition spéciale dans tout le pays. On sera à Tokyo. Au Mozambique, on survit. 3 semaines après le passage du cyclone Idai, la population n'a plus rien. Et en plus de chercher à boire, à manger et un toit, il faut éviter le choléra qui se répand. On sera à Beira, la 2e ville du pays. Et puis Nicolas Caro nous fera découvrir un polar russe, apparemment palpitant. Quant à Joseph Chovanec, il viendra nous parler de la culture rom. Les carnets sont ouverts, direction l'Écosse. 3 ans après le référendum sur la sortie de l'Union européenne, le Brexit continue de secouer le Royaume-Uni. Nouveau rebondissement cette semaine avec un changement de stratégie assez radical de Theresa May qui a tendu la main à l'opposition travailliste et à son leader Jeremy Corbyn. La Première ministre propose de chercher un compromis d'unité nationale pour sortir de l'impasse, essayer de faire ratifier son accord. Solution assez improbable de l'avis général. En tout cas, ces 3 années déjà de ratés et de déchirements sur le sujet ont laissé des traces, notamment chez les Écossais dont on parle aujourd'hui dans les carnets. Souvenez-vous, ils avaient très majoritairement voté pour rester européens à 62%. Et les élus écossais au Parlement britannique déplorent que leur voix ne soit pas du tout écoutée par le gouvernement, comme l'illustre ce coup d'éclat du leader des 35 députés écossais, Ian Blackford, à Westminster. C'était il y a presque 2 semaines.
Et ce jour arrivera quand le peuple d'Écosse votera pour son indépendance. Et nous serons un pays indépendant dans l'Union européenne. Alors, Madame la Première ministre, dites-nous, est-ce que notre voix compte vraiment? Est-ce qu'elle compte auprès du gouvernement ou est-ce juste un théâtre de marionnettes ici?
L'indépendance, vous vous souvenez, hein, en 2014, les Écossais s'étaient prononcés lors d'un référendum. 55% avaient voté contre l'indépendance, mais la perspective de quitter l'Union européenne et la gestion calamiteuse du Brexit semblent aujourd'hui rebattre les cartes. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, dit haut et fort qu'un nouveau référendum sur l'indépendance aura sans doute lieu en plein climat d'incertitude. La correspondante d'Europe 1, Anaïs Cordoba, est allée prendre le pouls en Écosse, à Édimbourg. Reportage.
C'est une chanson chère au cœur de Jerry et qu'il entonne régulièrement dans ce pub. Ses paroles lancent un appel pacifique à l'indépendance de l'Écosse, la cause que Jerry défend depuis des années. Après l'échec du référendum de 2014, ce programmateur informatique ne pensait pas reprendre le combat si tôt. Mais le Brexit est une opportunité inespérée. Lui et son groupe d'activistes ont repris leur réunion publique mensuelle sur l'indépendance. Autour de lui, Jerry sent l'humeur changer. De plus en plus d'Écossais s'indignent du peu de pouvoir que leur laisse Londres sur leur destinée.
La métaphore, c'est qu'on est à bord d'une voiture qui fonce vers le haut de la falaise. Et comme c'est un pouvoir décentralisé, et donc on n'a pas beaucoup de pouvoir, on est comme des enfants à l'arrière. Et les gens devant, le gouvernement britannique, continuent de se diriger vers le haut de la falaise. Et on ne peut pas s'échapper, à moins de descendre du véhicule. Et maintenant, ces derniers jours, on dirait que les conducteurs ne savent même pas conduire. Ils sont complètement démunis sur la marche à suivre. Et on dirait qu'ils ne savent même pas du tout ce qu'ils font.
Si le Brexit a finalement lieu, beaucoup d'Écossais qui étaient contre l'indépendance en 2014 n'auront pas besoin d'être convaincus par Jerry. C'est le cas de James, un commerçant qui, dans un accès de colère, a écrit en grosses lettres bleues et jaunes sur sa vitrine « Nous sommes toujours européens ». Dans le centre d'Édimbourg, James vend du vin français et des bières allemandes. Il a donc déjà beaucoup souffert de la baisse de la livre sterling. Lui aussi, comme le réclament les députés écossais à Westminster, veut absolument rester dans le marché unique.
Je ne fais plus aucune marge. Je gagne à peine ma vie sur chaque bouteille que je vends, mais je ne peux pas augmenter les prix car ici, les gens ne sont pas très riches. Ça me rend la vie vraiment difficile. Je ne suis pas un indépendantiste, mais je crois que l'indépendance est désormais inévitable. Nous serons sûrement plus pauvres, plus faibles, mais ça sera mieux que l'alternative d'être en dehors de l'Union européenne. Les choses ne peuvent pas rester comme ça vu la manière dont on est traité. À Westminster, ils nous entendent, mais ils nous ignorent.
Stop Brexit.
Un peu plus loin, dans une artère passante d'Édimbourg, Morag vient à la rencontre de la population deux fois par semaine avec une dizaine d'autres militants pro-européens. Et dans leurs discussions sur le trottoir, un argument revient souvent, la gestion désastreuse du Brexit par le gouvernement britannique.
Pour ceux qui ont changé d'avis sur l'indépendance, ce n'est pas tellement à cause du Brexit en lui-même, mais parce que le gouvernement britannique est tellement incompétent. Certains pensent que le gouvernement écossais ferait un meilleur boulot pour diriger le pays. Notre Parlement à nous fonctionne très bien. Tout n'est pas basé sur le conflit, la confrontation et le tribalisme, comme à Westminster. Notre Parlement est plus sur le modèle européen. Il est fait pour rechercher le consensus. Et le gouvernement est en général bien plus attaché au bien-être des gens et aussi à la justice sociale.
Un récent sondage a montré que si le Brexit avait bien lieu, 47% des Écossais seraient prêts à quitter le Royaume-Uni, contre 43%. À Édimbourg, le gouvernement attend donc patiemment le meilleur timing pour organiser ce second référendum. Dans son bureau à Holyrood, le siège du Parlement écossais, Fiona Hyslop, ministre des Affaires extérieures, est optimiste sur l'issue de ce futur nouveau vote sur l'indépendance.
Tout a changé. Certains ont menti aux gens durant le référendum sur le Brexit, mais aussi durant le référendum sur l'indépendance en 2014. On a dit aux Écossais que la seule manière de rester dans l'Union européenne, c'était de voter contre l'indépendance. Les gens y ont cru et maintenant ils sont traînés hors de l'Union européenne contre leur volonté.
Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, exige que tout accord de retrait de l'Union européenne soit soumis à référendum. Pour l'instant, Theresa May, comme Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, s'y oppose. S'ils parviennent à un accord d'union nationale et que le Brexit est enclenché, les indépendantistes écossais pourraient se sentir poussés des ailes. Édimbourg, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Anaïs Cordoba qui a regagné ses pénates à Londres. Bonjour Anaïs.
Bonjour Sophie.
On l'a vu, les députés écossais à Westminster sont vent debout contre le Brexit. Dans le contexte actuel où Theresa May cherche des compromis, quelles seraient les conditions qui pousseraient les Écossais à soutenir un accord ?
Jusqu'ici, les Écossais conditionnent leur soutien à deux choses. Que le Royaume-Uni reste dans le marché unique après le Brexit et que tout accord soit soumis à un référendum. Mmh. Ces deux conditions sont inacceptables pour Theresa May et Jeremy Corbyn, pour l'instant, se refusent aussi à les soutenir.
Vous nous rappelez en deux mots pourquoi les Écossais tiennent tant à rester dans l'Union européenne ?
Alors d'abord, il y a leur lien historique avec le continent, notamment avec la France. Et puis surtout, ils dépendent de l'immigration européenne. Leur population est déclinante et la main-d'œuvre européenne est indispensable à certains secteurs de l'économie. Mmh. Leurs universités aussi se développent grâce aux étudiants européens. Et les touristes continentaux apportent beaucoup à leur économie. Dernière illustration de cet élan, cette déclaration d'amour, message d'une campagne de pub de l'Office de tourisme écossais, diffusée depuis la date symbolique du Brexit, le 29 mars. Imaginez une belle plage écossaise balayée par un petit vent.
Hey l'Europe, l'Écosse a un message pour vous. De la part de notre peuple, de nos universités et de nos entreprises, du fond du cœur. Notre beau pays vous est ouvert. Et nos bras sont ouverts. Nos esprits sont ouverts. Ah oui, parfois nous accueillons même la pluie, mais que ça ne vous refroidisse pas. Chère Europe, poursuivons notre histoire d'amour. L'Écosse vous est ouverte. L'Écosse, c'est maintenant.
Voilà qui s'appelle une très bonne communication de la part de l'Écosse. Dossier à suivre dans les soubresauts du Brexit. Merci Anaïs.
Merci Sophie.
Et avant de refermer ce dossier, on va essayer de faire un point, de comprendre un peu où on en est quand même dans ce feuilleton du Brexit, d'autant qu'on a la chance d'avoir en studio avec nous Isabelle Horry, qui d'habitude est à Bruxelles. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Theresa May demande donc aux Européens un nouveau report au 30 juin, parce que dès le lendemain, le nouveau Parlement entrera en fonction, les Britanniques ne sont plus censés en être. Les Européens sont-ils prêts à le lui accorder, ce report ?
Alors a priori oui. Après, sur la durée, ça va être le sujet du sommet européen qui a lieu mercredi, ouais. Ça c'est clair. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Européens ne veulent pas être ceux qui portent le chapeau, ceux qui portent la responsabilité d'une sortie sans accord. Ils disent, voilà, si les Britanniques ont envie de se suicider, c'est ce que me disait un diplomate européen cette semaine, s'ils ont envie de se suicider, bah, qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est pas à nous de les créer,
assister,
ça, ouais. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que une sortie sans accord, ça va avoir des répercussions économiques aussi pour l'Union européenne. Ça a été chiffré, il y a une étude récente qui disait à peu près 40 milliards d'euros de pertes de richesse par an. Donc, politiquement, économiquement, ils n'ont pas envie de prendre ce chemin.
Alors normalement, le vrai clap de fin, le Brexit, c'était le 30 mars. Ça a déjà été reporté au 12 avril, la semaine prochaine. Là, Theresa May espère avoir un peu de temps peut-être pour convaincre l'opposition travailliste sur un compromis. Est-ce que Bruxelles y croit ou pas à ce compromis ?
Non. En fait, ils y croient pas parce que... Alors, ils sont contents qu'enfin, elle ait tendu la main à Jeremy Corbyn. Ils attendaient ça. Hein. C'est clair, quelqu'un m'a dit cette semaine, enfin, elle se comporte en femme d'État. Mais... Ils disent que ce n'est pas dans la culture des Britanniques, dans leur ADN de faire du compromis. Donc, ils n'y croient pas tellement, mais en même temps, elle le fait, elle tente. Et donc, pour cette raison-là, ils vont quand même, eux, faire un geste et lui donner du temps.
Et pour ne pas porter le chapeau, on a bien compris. On verra si Theresa May réussit à porter un peu de clarté d'ici mercredi. Merci beaucoup, Isabelle. En tout cas, pour vous, c'était très clair. Bon retour à Bruxelles.
À bientôt.
Europe 1.
Je vous propose d'aller maintenant ce grand pays d'Afrique de l'Ouest où les violences intercommunautaires sont de plus en plus fréquentes et inquiétantes. Dans le centre du pays, des civils y sont littéralement massacrés. À Bamako, la correspondante d'Europe 1 va nous expliquer tout ça.
Europe 1. Notes from around the world.
Europe 1. Les carnets du monde.
Deuxième étape, Sophie Larmoyer, c'est le Mali, toujours confronté à la violence.
Il y a deux semaines, le Mali a connu sa pire tuerie depuis longtemps, en tout cas depuis la crise de 2012. Au moins 160 civils, en grande partie des femmes et des enfants, ont été tués dans le village d'Ogossagou-Peul. On y revient dans les carnets car ce massacre révèle la crise que traverse le centre du pays entre menaces djihadistes, violences intercommunautaires et absence de l'État. Une quarantaine de blessés ont été évacués à l'hôpital de Sévaré. Christelle Pire est allée à leur rencontre. Il témoigne, reportage.
Assis sur un matelas dans la cour de l'hôpital, cet homme raconte d'une voix faible, un œil fermé et gonflé à cause d'une blessure par balle.
Ils sont rentrés dans le village et ils se sont mis à tirer. Ils n'ont parlé avec personne. Ils ont brûlé les maisons partout et celui qui tentait de fuir, ils lui tiraient dessus.
Ce samedi-là, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hommes armés encerclent le village d'Ogossagou-Peul vers 5h du matin, juste après la prière. L'attaque est brutale et très violente. Les témoins décrivent un déluge de feu et l'utilisation d'armes lourdes de type militaire.
Tous ceux qui n'ont pas eu la chance de s'enfuir ont été tués. Même si vous essayiez de vous cacher en groupe, ils vous tuaient, que ce soit dehors ou à l'intérieur des cases. Si tu tentais de fuir, ils te tuaient. Ils ont mis le feu à ma case. Cette personne-là a juste été blessée. Ce n'était pas le jour où elle devait mourir, elle a pu s'échapper. Même quand les enfants ont voulu courir, ils leur ont tiré dessus pour les tuer.
Selon l'UNICEF, plus d'un tiers des victimes sont des enfants. Assis sur une autre natte, cet homme a les mains bandées pour protéger ses brûlures. Il a perdu deux garçons et une fille dans l'attaque.
On ne pensait même pas qu'on allait s'en sortir. On était tous dans la même chambre, il faisait très chaud à cause du feu. La tôle du toit aggravait la chaleur. Avec la fumée, les gaz, on ne pouvait plus respirer. Tout brûlait.
Plus de 400 cases et 80 greniers ont été brûlés par les assaillants. De nombreux corps calcinés ont été retrouvés sur les lieux du massacre. Certaines personnes ont été égorgées, des femmes enceintes éventrées. Alors on ignore encore qui sont les assaillants, l'enquête est en cours, mais on soupçonne des milices de chasseurs traditionnels Dogon. Dans le village d'Ogossagou-Peul, une soixantaine d'hommes appartenaient à un groupe d'autodéfense Peul, se réclamant du désarmement. Cet homme, blessé au visage, affirme en être le chef local.
Nous, on ne veut vraiment pas la guerre. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Les armes que l'on avait déposées, ce sont les mêmes que l'on a repris pour riposter. Si tu es attaqué chez toi,
Tu as l'obligation de riposter si tu as un minimum de moyens. Les combats ont duré pendant 2 heures. Après, nous n'avions plus de balles, plus de munitions.
L'attaque a fait plusieurs milliers de déplacés dans la zone par peur des représailles. Au pays Dogon, les attaques contre les villages, qu'ils soient Peul ou Dogon, sont quasi quotidiennes. Bamako, Christelle Pierre, Europe 1.
Voilà, que se passe-t-il dans le centre du Mali, dans le pays Dogon? Comment de tels massacres sont-ils possibles dans un pays où il y a par ailleurs une mission de maintien de la paix de l'ONU, des forces françaises? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va décrypter avec Christelle Pierre qui est en ligne avec nous depuis Bamako. Bonjour Christelle.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors d'abord, ces affrontements entre communautés, il faut rappeler qu'ils ne sont pas nouveaux.
Non, effectivement, dans le centre, il y a toujours eu des conflits entre les Peuls, qui sont plutôt des bergers, des éleveurs, et les Dogons, ou encore les Bambara, qui eux sont plutôt agriculteurs ou cultivateurs. Et des conflits à propos du partage de la terre, des points d'eau, ou encore des endroits où les bêtes peuvent passer. Mais ces dernières années, ces conflits intercommunautaires ont pris une toute autre dimension. Selon l'ONU, l'année dernière, ils ont fait plus de 500 morts et plus de 50 000 déplacés.
Oui, parce que ce ne sont pas que des luttes communautaires, ce serait trop simple.
Non, ce qui a notamment déstabilisé la zone, c'est l'arrivée des groupes djihadistes au moment de la crise en 2012. Et ces dernières années, la lutte antiterroriste s'est plutôt concentrée sur le nord du Mali, ce qui fait que certains groupes sont descendus, si on peut le dire, vers le centre. Mais si les groupes djihadistes ont attaqué les forces armées et les symboles de l'État, les autorités maliennes avaient déjà un contrôle limité de leur territoire. C'est ce qu'explique Boukari Sangaré, il est chercheur à l'Institut d'études de sécurité.
On a un État qui est faible, qui n'a pas les moyens nécessaires d'occuper tous les villages. Et aussi, la question, ce n'est même pas aussi la présence de l'État, mais c'est quel type d'État les gens veulent. L'utilité de l'État. Si l'État il est là, il doit être en mesure d'offrir les services sociaux de base, l'éducation, la santé, la justice. Mais même là où l'État était présent, avant la crise, il n'était pas en mesure d'offrir ses services aux populations.
Voilà pourquoi les populations se sont tournées vers d'autres pour avoir ces services justement. Par exemple, certains groupes djihadistes ont rendu la justice, ont fourni des armes à certaines communautés et des groupes d'autodéfense se sont également formés pour protéger les villages.
Si vous voyez que les gens s'arment dans cette région, c'est que l'État, quelque part, a failli à son devoir de protection, de sécurisation des populations. C'est pourquoi les communautés s'arment pour pouvoir protéger leurs parents, pour pouvoir protéger aussi leurs biens.
On comprend que ces communautés ont été contraintes à l'autodéfense, en fait.
C'est ça. Et vous ajoutez l'affaiblissement des autorités traditionnelles, comme les chefs de village ou les imams, qui auparavant arrivaient à réguler les conflits. Et puis, la prolifération des armes, et on obtient évidemment une véritable crise.
Ça veut dire que ces communautés sont tombées dans une spirale de représailles ?
Oui, il y a beaucoup d'attaques dans le centre et c'est difficile de savoir à chaque fois qui en est à l'origine. Est-ce que ce sont les djihadistes, de simples bandits, des groupes d'autodéfense, Peul ou Dogon? Dans le pays Dogon, chaque communauté s'accuse et comme on l'a vu à Ogossagou Peul, ce sont principalement les civils qui sont les victimes de ces représailles.
Alors que fait le gouvernement, Christelle? Que fait l'État malien pour résoudre cette crise?
Alors le gouvernement malien a mis en place en 2017 un plan de sécurisation des régions du centre, avec en théorie un redéploiement de l'armée. Ouais. Mais concrètement, l'État a toujours beaucoup de mal à reprendre pied dans le centre du pays. Il y a des villages qui sont totalement inaccessibles, que ce soit aux autorités ou aux humanitaires, car ils sont sous embargo djihadiste. Dans le pays Dogon, le gouvernement parle depuis un an de désarmer les groupes d'autodéfense, mais sur le terrain, on n'a pas encore vu beaucoup de résultats. Et à l'inverse, l'État est même accusé de collusion avec certaines milices de chasseurs, de leur avoir délégué, si on peut dire, la gestion de la sécurité dans le centre. Par exemple, pour l'attaque d'Ogossagou Peul, les soldats maliens étaient tout près à une quinzaine de kilomètres et pourtant ils ont mis plusieurs heures à se rendre sur place.
Et qu'en est-il, Christelle, des forces étrangères présentes dans le pays? Les questions que l'opération Barkhane menée par les Français soit étendue, descendent vers le centre du pays?
Oui, longtemps, le centre a été un peu la chasse gardée du gouvernement malien. Mais effectivement, les soldats français y ont multiplié les raids ces derniers mois pour cibler des chefs djihadistes. Et ces jours-ci, l'état-major de Barkhane a annoncé qu'elle allait descendre un peu plus vers le centre. Mais alors, ce n'est pas sûr que cela permette d'apaiser le conflit, car dans le pays Dogon, ce sont principalement des violences intercommunautaires. Et ce n'est pas dans le mandat de la force Barkhane de s'interposer. Son objectif, c'est plutôt la lutte antiterroriste.
Ouais. Et en tout cas, ces violences risquent aussi de provoquer une crise humanitaire.
Oui, on s'attend à une grave crise alimentaire cet été. Les déplacés ont tout perdu, leur bétail, leur récolte. Ouais. Et puis beaucoup de cultivateurs n'ont pas pu se rendre au champ.
À cause de l'insécurité. Merci beaucoup Christelle Pierre pour toutes ces explications. on comprend un peu mieux le contexte de ce terrible massacre qui a lieu il y a 15 jours. À bientôt dans les carnets.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
Un peu de littérature pour souffler, quoique Nicolas Carreau a lu pour nous un polar russe. Entre Da Vinci Code et le film Seven, m'a-t-il dit. Vous voyez, pas sûr qu'on souffle beaucoup en fait.
Europe 1, les carnets du monde.
Et maintenant un livre dans le monde, c'est le conseil lecture des carnets. Sophie Larmoyer, il est 13h24, on retrouve Nicolas Carreau.
On se promène pas mal à travers les pages de romans étrangers. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Et votre roman de la semaine est russe, ça faisait longtemps tiens.
Eh oui, un roman russe, un polar même, à Moscou. C'est aux éditions du Masque chez Lattès. C'est un best-seller international, 1 million de lecteurs déjà, c'est gigantesque. Et il arrive donc en France, ça s'appelle « Tous les péchés sont capitaux » signé Daria Desombres.
Ah bon ? Tous les péchés sont capitaux ?
Ben oui, chez les orthodoxes, oui. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Soit vous êtes un saint, soit non. Ah. Et c'est au centre de l'intrigue qui se situe entre le Da Vinci Code, pour son côté historico-ésotérique, et Seven, vous savez, le film avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Dans le film, le tueur en série s'attaquait à des pêcheurs, le gourmand, l'avare, le paresseux, etc. On retrouve un peu de ça dans le livre de Daria Desombres, mais je reprends tout depuis le début. Ça commence à Moscou, sur la place Rouge. Il faisait un froid, un vrai froid de gueux, écrit-elle. Vera, une clocharde de carrière au doux surnom de Serpillière, faisait les 100 pas sur la place Rouge en claquant des dents. Elle n'avait jamais aimé les places et celle-ci encore moins. Il faut dire qu'adossée au beau milieu de la place Rouge contre les remparts du Lobnoï Miesto, pile là où se déroulaient autrefois les exécutions publiques, elle avait franchement l'impression d'être à la merci des cieux.
C'est l'héroïne Vera ?
Non, mais elle va faire une découverte étonnante. Sur la place, donc, il n'y a personne encore. Et elle voit un sac marqué du logo des grands magasins Goom. Elle se dit « Super, la journée commence bien !» Donc, elle va ouvrir le sac pour découvrir le trésor. Mais là, surprise, une main, parce qu'il en reste. Oh. Et entre les doigts bleuis, un petit tableau représentant un paysage champêtre un peu étrange. Pour l'instant, on n'en saura pas plus. Vera s'écroule, elle s'évanouit. Elle a juste le temps de voir deux policiers qui arrivent vers elle en courant.
Et on change de chapitre.
Oui, c'est construit par personnages, des chapitres très courts qui alternent. On passe donc au personnage de Masha maintenant. C'est elle l'héroïne. Elle a 22 ans, elle est étudiante en droit et elle vient de soutenir un mémoire sur des tueurs en série. C'est son obsession.
Elle a une drôle de passion, Masha.
Oui, mais on comprend pourquoi quand on sait qu'elle a perdu son père, un avocat, il a été assassiné. Ah. En tout cas, elle est tellement calée sur le sujet qu'elle décroche un stage à la Petrovka, le 36 de la police moscovite, si vous voulez. Sauf que son tuteur s'appelle, j'allais dire tueur,
son tuteur
s'appelle Andrei et ce n'est pas le type le plus sympa du monde. Il n'a pas du tout envie de traîner Masha dans ses enquêtes. Il la met donc sur de vieilles affaires pour l'occuper. Ça, c'était sans compter sur la pugnacité de Masha. Des cadavres ont été retrouvés dans divers endroits de Moscou et c'est Masha qui se rend compte que ses emplacements ne doivent rien au hasard, ils correspondent au vieux plan de la ville, au Moscou médiéval, construit selon le modèle de la Jérusalem céleste, la ville mythique de la Bible, et chaque cadavre fait référence à un péché. L'enquête peut commencer et moi m'arrêter.
Ouais, ne nous défleurez pas l'enquête. L'auteur, qui est-elle ?
Daria Desombres, donc, elle est russe, elle vient de Saint-Pétersbourg, mais elle a choisi Moscou comme décor à son roman parce que c'est une ville très particulière, très ambivalente et donc romanesque. Écoutez, elle m'a expliqué ce qu'elle pensait de Moscou. Elle parle d'ailleurs un français impeccable.
À Moscou, c'est plus une ville humaine. On se sent très très seul. C'est très énergisant. Du coup, tout de suite, moi par exemple, je commence à perdre le poids. J'ai l'impression que le métabolisme augmente. Et je ne sais pas comment les gens arrivent à habiter à Moscou en quotidien. Puis à Moscou, vous avez justement ce contraste que je n'avais pas dans ma ville natale, à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas ce passé qui peut ressurgir. Et c'est drôle parce que, d'une certaine manière, une ville de Moscou, avec tout ce qu'elle vous offre au niveau du divertissement, c'est une ville de péché. Et c'est aussi une capitale d'orthodoxie.
Ah, ça, c'est ce côté religieux qui fait penser au Da Vinci Code, comme vous nous l'avez dit.
Absolument, c'est une intrigue qui convoque l'histoire avec un grand H, une intrigue à tiroir complexe, pleine de choses trappes et autres fausses pistes. Pour écrire ça, il faut absolument un plan. C'est le conseil de Daria Desombres.
Je suis une scénariste à la base, et donc je commence avec un plan. Maintenant, quand j'écris, je change le plan. Parce que c'est vrai que les personnages se développent. Nous, en tant qu'auteurs, on les connaît de mieux en mieux. On se dit, ah non, finalement, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. J'économise pas mal du temps, c'est-à-dire que je sais ce que je vais écrire le lendemain. En fermant mon notebook le soir, je sais que demain, je vais écrire sur la rencontre, par exemple, d'André et de Masha. J'ai réfléchi le soir, j'ai réfléchi la nuit. Les rencontres peuvent se passer pas comme c'était prévu où finalement je peux bouger, le rencontre un peu plus tôt, mais je sais que ça doit arriver au personnage.
Voilà, avis aux futurs écrivains de polar, c'était le conseil de Daria Desombre qui publie donc Tous les péchés sont capitaux aux éditions du Masque. Traduction ?
Traduction du russe par Julia Chardavoine.
Merci beaucoup Nicolas, ça donne envie.
Europe 1.
Si je vous dis Reiwa, ce n'est pas du russe, mais du japonais. C'est le nom de la nouvelle ère impériale qui s'ouvre dans quelques semaines au Japon. La révélation de ce nom a été une vraie fête cette semaine là-bas. Alors on y va, nous aussi. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h31, on prend maintenant la direction du Japon. Sophie Larmoyer, le Japon, un pays qui s'apprête carrément à changer d'air.
Le grand changement est attendu pour le 1er mai prochain, date à laquelle le prince héritier Naruhito succédera à son père, l'empereur Akihito, qui lui-même, et c'est tout à fait exceptionnel, va abdiquer. Or là-bas au Japon, le règne de chaque empereur correspond à une ère. Celle d'Akihito, par exemple, c'est l'ère Heisei, ce qui veut dire l'ère de la paix en devenir. Et tous les Japonais attendaient avec impatience depuis des mois le nom de la nouvelle ère, celle qu'incarnera Naruhito. Et voilà, lundi, ils ont su... Le nom a été révélé, on l'appellera Reiwa, ce qui signifie l'ère de l'ordre harmonieux ou l'harmonie ordonnée. C'est selon. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo et celui par lequel on essaye de comprendre comment ça marche, le Japon. Et là, c'est l'occasion pour nous de se pencher sur ce calendrier nippon si singulier, unique au monde. En fait, Bernard, c'est une très très vieille tradition.
Ah oui, elle remonte au 7e siècle, à l'an 645 précisément, quand a débuté la première ère impériale japonaise qu'on a baptisée Taika. Mmh. Le Japon a importé cette tradition de Chine, qui utilisait aussi ce système, tout comme d'ailleurs d'autres pays d'Asie, la Corée par exemple. Mmh. Et l'idée à l'époque, c'était que les souverains de droit divin étaient si puissants qu'ils géraient aussi le calendrier. Ils étaient les maîtres du temps, si vous voulez.
C'est ça.
Et le Japon est le seul pays du monde qui a conservé cette tradition. Il a déjà connu 247 ères impériales, Reiwa étant la 248e.
Et là, vous êtes en quelle année du coup ?
Ah, en ce moment, officiellement, on n'est pas en 2019 ici au Japon, mais à l'an 31 de l'ère Heisei.
Voilà, voilà. Alors la proclamation en début de semaine du nom de la nouvelle ère Reiwa, ça a vraiment été un événement. Hein.
Ah oui, et sans même attendre lundi d'ailleurs, les Japonais ces dernières semaines se sont rués sur les sites de paris en ligne pour faire des pronostics. Ou alors, ils ont acheté tous les noms de domaines internet correspondant au nom d'ère qui faisait figure de favori. Lundi, tout le monde a suivi l'annonce en direct, à la télévision notamment. Mm-hmm. Comme cette femme au foyer, rivée à l'écran au moment où le porte-parole du gouvernement s'apprête à dévoiler le nom de la prochaine ère, Reiwa donc.
Quoi ? Reiwa ? Ah bravo, Reiwa, excellent choix. Les deux idéogrammes de ce nom sont faciles à comprendre, à lire et à écrire, et ils sonnent bien à l'oreille. En plus, ils proviennent d'un classique de la littérature japonaise et pas chinoise, comme ça a toujours été le cas avant. Et en plus, un de ces deux idéogrammes figure dans le prénom de mon mari. C'est une belle surprise. Quel enthousiasme ! Est-ce qu'il est partagé par la majorité des Japonais, Bernard ?
D'après les sondages, 6 sur 10 sont contents de ce choix. Après l'annonce, d'ailleurs, beaucoup de gens se sont réunis pour, tous ensemble, faire la plus belle calligraphie des deux idéogrammes choisis et ensuite immortaliser ça par une photo de groupe. Il y a eu des bousculades dans les rues où on distribuait les éditions spéciales que plusieurs quotidiens ont sorties. Tout le monde voulait un exemplaire en guise de souvenir de cette journée. Et plusieurs grandes marques ont sorti des produits collector, éditions limitées, arborant les deux idéogrammes qui figurent dans Reiwa et qui, si on trouve désormais, y compris sur les bouteilles de coca ou même sur des chaussettes logotées Reiwa.
Mais quand même, Bernard, il y a un débat sur l'un des deux idéogrammes choisis.
Oui, un des deux pose vraiment problème. Ce qui explique qu'un Japonais sur trois, ce n'est pas rien, n'est pas ravi du choix de ce nom. Écoutez ce monsieur, par exemple, que j'ai rencontré dans mon quartier de Tokyo.
L'idéogramme wa, qui signifie la paix, l'harmonie, ça c'est parfait. Mais l'autre, rei, renvoie à l'ordre, à l'injonction venue d'en haut. Mais enfin, l'harmonie, ça ne se commande pas. Donc franchement, ça ne me plaît pas du tout.
Ce point a suscité énormément de débats ici cette semaine, Sophie. Mmh. Jamais dans le passé, on avait osé utiliser ce ray pour dénommer une aire, parce qu'il est très directif. Donc, énormément de gens ont été stupéfaits en entendant Ray-Wa. Mmh. Du coup, très vite, le gouvernement s'est lancé dans une grande opération de com' pour expliquer que cet idéogramme avait aussi une autre acception, assez peu utilisée en fait, qui renvoie non à l'ordre, mais plutôt à l'ordonnancement agréable. Ce serait dans ce sens-là qu'il faudrait lire le ray dans Ray-Wa. Ce nom ne serait pas directif, mais bucolique. C'est ce qu'a soutenu le Premier ministre Shinzo Abe.
Depuis la nuit des temps, la poésie japonaise célèbre la beauté de la nature tout au long des quatre saisons. J'ai à cœur de transmettre ce patrimoine inestimable aux générations suivantes pour que, comme les pruniers qui, après l'hiver rigoureux, fleurissent et s'épanouissent dans toute leur splendeur, chacun de nos compatriotes puisse à son tour faire éclore ses propres fleurs en concrétisant ses rêves d'avenir. Nourri d'un tel espoir pour notre pays, j'ai décidé d'appeler la prochaine ère Ray-Wa.
Oh, le Premier ministre se fait poète. L'allusion à la poésie nippone, c'est parce que c'est la première fois que le nom de l'ère impériale n'est pas issu des classiques littéraires chinois, comme c'était le cas jusque-là. C'est pas anodin, hein, venant de Shinzo Abe qui est nationaliste, parce qu'en fait c'est bien lui qui a choisi ce nom d'ère, pas l'empereur ni de son successeur.
Oui, parce que depuis l'après-guerre, la constitution japonaise prive l'empereur de tout pouvoir de décision d'ordre politique. Ouais. Donc c'est le gouvernement qui a piloté tout le processus, avec moult consultations, et il a mis des semaines à aboutir.
Oui, il a été maillé d'anecdotes assez cocasses d'ailleurs.
Oui, car Shinzo Abe voulait absolument éviter les fuites dans la presse avant l'officialisation du nom. Donc le processus de sélection a été entouré d'un côté top secret, un peu surréaliste. Par exemple, lundi, les experts en langue et en littérature qui avaient été mis au courant des noms présélectionnés ont été confinés dans les bureaux du Premier ministre jusqu'à l'annonce de sa décision. Ils ont dû remettre leur téléphone pour qu'ils ne communiquent pas avec l'extérieur, et même leurs allées et venues aux toilettes ont été encadrées par des cerbères. Et puis, alors, autre anecdote, la proclamation de Ray-Wa s'est faite avec un peu de retard sur l'horaire prévu, parce que les officiels ont négligé un petit détail. L'encre de Chine avec laquelle on a tracé les idéogrammes de la calligraphie qui a été présentée par la presse, ben, il fallait lui laisser le temps de sécher. Sinon, elle aurait dégouliné sur l'écriteau brandi par le porte-parole du gouvernement.
Ouais, ça aurait été beaucoup moins chic tout de suite. Mais Bernard, dites-nous, c'est du folklore, c'est de la tradition pure, ou alors ces noms d'air, ces calendriers sont vraiment beaucoup utilisés encore aujourd'hui?
Ah, l'administration n'utilise que ce système de datation impériale. Ah oui. Le nom de l'ère et l'année correspondante figurent sur tous les documents officiels, donc aussi sur les passeports, les permis de conduire, etc., ainsi que sur les pièces de monnaie. Alors, les gens, eux, dans la vie courante, utilisent les deux systèmes, le système occidental et les aires impériales. C'est selon la situation. Et la plupart des Japonais trouvent ça très bien, cette coexistence de deux datations différentes. Même s'il y en a tout de même qui trouvent ça un peu absurde. C'est le cas de ce septuagénaire que j'ai rencontré qui aspire à plus de modernité.
Le Japon ferait mieux d'abandonner cette tradition des aires impériales. Il serait grand temps que ce pays évolue et adopte le même calendrier que partout ailleurs. Et puis aussi qu'il révise sa vieille constitution pacifiste qui date de 1947. Bon sang, que le Japon s'ouvre un peu au monde.
Autre enseignement des sondages, Sophie, 30% des Japonais craignent un impact négatif de ce changement d'ère sur leur vie quotidienne.
Ah bon, pourquoi ?
Eh bien parce que le 1er mai, quand Ray-Wa débutera, tous les systèmes informatiques du pays devront avoir été adaptés, puisqu'à présent ils utilisent la datation de l'ère Heisei. Donc certains redoutent un gros bug informatique, un peu ce qu'on avait craint lors du passage à l'an 2000.
Ouais, c'est ça. Donc le 1er mai, dans quelques semaines, si je comprends bien, vous repartez à zéro, vous serez le premier de l'an 1, c'est ça ?
Le premier jour de l'an 1 de l'ère Ray-Wa, voilà. Et ce changement d'air, pour la première fois, ne sera pas connoté tragiquement, comme ça a toujours été le cas précédemment. Puisque cette fois, on ne change pas d'air à cause de la mort de l'empereur, mais juste parce qu'il a abdiqué. Ce qui, au passage, ne s'est plus produit au Japon depuis plus de deux siècles.
Ouais. Et bien que cette nouvelle ère soit harmonieuse et source de bonheur. Donc, harmonie ordonnée, j'ai bien retenu. Hein. Merci Bernard. C'est très exotique pour nous, ces histoires de calendrier. Et en même temps, ça nous raconte un peu aussi qui sont les Japonais. Merci Bernard, à bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Europe 1.
Et on retourne sur le continent africain. On a voulu prendre des nouvelles du Mozambique, touché de plein fouet il y a trois semaines par un cyclone dévastateur. Dans un instant, on fait le point à Beira, la deuxième ville du pays sur la côte orientale.
Europe 1. Europana. Europe 1. Les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, les carnets sont ouverts et on va prendre la direction du Mozambique à présent, pays très durement touché par le cyclone Idai, il y a un petit peu plus de trois semaines, Sophie Larmoyer.
Le Mozambique, c'est ce pays tout en long au sud-est du continent africain, en face de la grande île de Madagascar. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui le 14 mars dernier a subi de plein fouet ce cyclone du nom de Idai. et qui est considérée comme la pire catastrophe météorologique de l'histoire de l'Afrique australe. Ces pluies diluviennes et ces vents violents ont causé des destructions et des inondations massives dans le pays qui longe la côte orientale de l'Afrique. Et on en a très peu parlé ici, c'est pourquoi dans les carnets on voulait donner la parole à ceux qui en reviennent, qu'ils nous expliquent un peu la situation de ce pays. Bilan provisoire donné cette semaine, au moins 600 morts, sans doute bien plus, et des centaines de milliers de sinistrés qui sont toujours dans les eaux boueuses. Trois semaines après la catastrophe, c'est l'urgence sanitaire qui mobilise les autorités et les organisations humanitaires. Alors il faut d'abord se rendre compte de l'ampleur des destructions causées sur place, et notamment dans la deuxième ville du pays, Beira. Adrien Barbier est correspondant pour des médias français dans cette région d'Afrique australe depuis 5 ans. Il est basé en Afrique du Sud et il a donc pu arriver sur place 3 jours à peine après le passage du cyclone. Il nous raconte.
Un vrai spectacle de désolation. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que la ville avait été bombardée en fait. Tous les toits, sans exception, étaient abîmés. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était l'état des routes. Qu'il y avait des monticules partout sur les routes d'arbres, de tôles, de débris en tout genre. Et surtout, la ville était... c'était une ville morte, en fait. Il n'y avait presque personne.
Alors que c'est une grosse ville, hein, quand même, d'habitude. C'est une grosse ville portuaire.
C'est une grosse ville portuaire. Donc, c'est une ville de 500 000 habitants. Mmh. Il y a aussi tout le corridor de Beira, donc qui remonte vers le Zimbabwe, qui est très peuplé. En fait, c'est vraiment la route qu'a suivi le cyclone. C'est ce corridor qui a une grosse importance économique pour le Mozambique.
Le cyclone a provoqué d'énormes inondations. Ça veut dire aussi que toutes les récoltes sont détruites.
Voilà, les derniers chiffres parlent de plus de 500 000 hectares de récoltes détruites. Il faut savoir qu'au Mozambique, plus des 2/3 de la population vit de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Mmh. Le petit potager ou le lopin de terre qu'ont les gens pour vivre. Tout a été complètement rincé, en fait, par la montée des eaux, également par les vents. Il y a énormément d'arbres qui ont été arrachés. Donc, ça plonge toute cette région dans l'insécurité alimentaire. Il faut savoir qu'en plus, c'est aussi une région qui, l'année dernière, il y a 2 ans, avait souffert de sécheresse. Donc, il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui dans la précarité.
Voilà, désolation, probable crise alimentaire à court et à moyen terme, précarité. Des organisations humanitaires, je vous le disais, sont à pied d'œuvre auprès de la population du Mozambique, des agences de l'ONU et puis des ONG comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières. Les infrastructures d'eau potable et d'assainissement ont été détruites. La population se débrouille donc avec de l'eau sale, stagnante. Et ils font face déjà à un début d'épidémie de choléra. Explication de Corinne Thor, chef de mission de MSF qui vient de rentrer de Beira.
Ce qui est évident, c'est qu'il y a des cas de choléra compte tenu des conditions de vie de cette population qui n'a pas obligatoirement accès à l'eau potable et qui se débrouille avec l'eau qui est stagnante. Donc là, on a un risque de développement de diarrhée et évidemment de choléra. Donc l'urgence, c'était d'installer des centres pour une prise en charge le plus rapidement possible, puisque ces personnes-là peuvent mourir pratiquement au bout de 24 heures hein, s'ils n'ont pas accès à des centres de santé qui puissent les traiter.
C'est très rapide.
C'est très rapide, c'est vraiment très rapide. Donc il faut absolument que l'on aide le plus possible à réhabiliter les centres de santé. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un problème récurrent de malaria. Là, on commence à avoir un pic de plus en plus important de malaria. Mais comme ces populations sont déplacées, c'est extrêmement difficile d'avoir des données précises, puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas accès à une assistance. Donc je pense que ça risque d'être compliqué dans les semaines à venir. On risque d'avoir d'autres soucis. Mais tout est lié. C'est de l'eau potable, distribution alimentaire, accès aux soins le plus rapidement possible. C'est un ensemble, hein, une urgence de ce type-là. C'est un ensemble de facteurs consolidés qui pourraient dégénérer si personne n'est là.
Une campagne de vaccination contre le choléra a commencé cette semaine au Mozambique. Près de 900 doses de vaccins pour tenter d'endiguer l'épidémie. Dans le pays, l'Institut de gestion des désastres naturels coordonne les opérations d'aide à la population. C'est un organisme qui a été mis en place il y a 20 ans déjà, sans doute parce que le Mozambique est fréquemment touché par des catastrophes. Écoutez Adrien Barbier.
Le pays est régulièrement ravagé. Et c'est un pays pauvre, donc les investissements d'adaptation n'ont pas été faits. Il y a peut-être 1 ou 2 abris dans quelques endroits. pour une très grande population, ça permet absolument pas de faire face. Et surtout, la géographie du Mozambique fait que c'est un pays, un long pays, donc qui a une façade maritime de 2700 km. C'est un pays très plat où plusieurs fleuves viennent donc se jeter dans la mer, ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de zones qui peuvent s'inonder à chaque saison des pluies et c'est très compliqué de savoir où, donc de prévoir. Si, par exemple, on voudrait enlever les gens des zones inondées, c'est des millions de personnes qu'il faudrait déplacer. Et par exemple, la zone qui a été inondée par le cyclone Idai, elle n'avait jamais été inondée depuis des décennies.
Corinne Thor de MSF, que vous entendiez tout à l'heure, m'a confirmé que certaines zones n'étaient toujours pas accessibles autrement que par hélicoptère. Les opérations d'urgence devraient donc durer un moment encore. Et elles, comme Adrien Barbier, m'ont confié à quel point ils avaient été épatés par le courage et la détermination des Mozambicains.
C'est quand même un pays qui vit des choses pas faciles ces dernières années, parce qu'il y a eu des gros problèmes politiques, une guerre avec l'opposition, il y a des gros problèmes économiques. Le pays est plongé dans une crise importante depuis 2 ans. Il y a des grandes affaires de corruption. Donc voilà, on a un peu l'impression que le destin s'acharne sur le Mozambique. Et voilà, les gens à qui j'ai parlé disent tous, presque sans exception, enfin voilà, il faut se relever, la vie continue, on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'en fait, comme au Mozambique, l'État est très faible en fait. Donc les gens ne peuvent pas en fait compter sur l'État. Donc ils doivent se débrouiller eux-mêmes.
Donc ils ont une force de caractère que vous saluez apparemment.
Ouais, très impressionnante.
Quelque chose comme ça arriverait chez nous, dans des pays, on va dire, riches, aisés. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à le gérer. Ça m'a fait un petit peu penser à Haïti, avec cette île qui a constamment des incidents climatiques, le choléra aussi d'ailleurs. Mmh. Et la population, de la même manière, avance, continue d'avancer et va vouloir reconstruire très vite sa maison. Voilà, une belle leçon de vie.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus et aider à reconstruire la maison, vous pouvez donner un coup de pouce aux ONG actives sur place pour aider à soigner, nourrir, vacciner, rebâtir. Il y a MSF bien sûr, mais aussi la Croix-Rouge française ou encore Action contre la faim, ACF. Vous trouverez toutes les infos sur leur site internet.
Europe 1.
Suivre, c'est la journée internationale des Roms demain et ça inspire beaucoup l'ami Joseph Chovanec qui adore la culture rom.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est avec Sophie Larmoyer comme chaque dimanche de 13h à 14h. Alors, que diriez-vous d'un petit voyage en Autistan maintenant? C'est ce qu'on vous propose maintenant avec Joseph Chovanec.
Il porte un regard plein de philosophie sur le monde, passe son temps à voyager et quand même, il nous rend visite chaque semaine sans faute. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors, vous voulez nous parler des Roms aujourd'hui dans un contexte très compliqué pour eux ici en région parisienne. Je rappelle en quelques mots, cette communauté vit ces dernières semaines sous pression, intimidation, alors que des rumeurs ont prétendu que des Roms enlevaient des enfants dans plusieurs villes de banlieue.
Oui Sophie, on se croirait aux âges sombres du Moyen-Âge, mais on a beaucoup d'autres raisons de parler des Roms. Demain, 8 avril, a lieu la journée internationale des Roms, l'occasion de faire un constat. En Europe, que ce soit occidentale ou orientale, les Roms représentent l'un des pans les plus fascinants de la culture continentale.
Ça fait longtemps que les Roms et leur culture vous attirent.
Très longtemps Sophie. Durant mes nombreux séjours en Europe orientale, j'avais souvent essayé de trouver leurs traces. Ça m'avait valu à bien des reprises des remarques moqueuses de mes interlocuteurs. On m'a traité d'idéaliste, d'idiot, j'ai eu droit aux remarques telles que « attends qu'il te dépouille », etc. Mais petit à petit, j'ai découvert le poteau rose. En fait, en Europe centrale et orientale, le label Rome ne désigne pas vraiment un peuple qui serait opposé au non-Rome. Il s'agit simplement de gens comme les autres, mais qu'on n'aime pas un. Comme le dirait Coluche, l'alcoolique, c'est celui qui boit autant que vous, mais que vous n'aimez pas.
Ouais. Et ces préjugés sont malheureusement vrais également dans leur pays d'origine, la Roumanie.
Surtout, oui, Sophie. On pourrait dire qu'en Roumanie, pour beaucoup de gens, la vie se déroule sous le spectre imaginaire et terrifiant des Roms. La scène qui m'a donné le plus à réfléchir, c'était passée un soir à Bucarest, alors que j'habitais là-bas. Un fier Roumain, tout en me parlant de sa culture, de sa littérature, etc., me ramenait chez moi au volant de sa voiture. Soudain, une autre voiture passe un peu vite. Impossible de distinguer le conducteur. Mais mon interlocuteur de s'écrier avec une spontanéité absolue, encore un tzigane. Et ces distinctions m'avaient laissé d'autant plus perplexe que l'histoire de tous ces peuples est unie, inséparablement unie. On le voit même dans la langue, pour désigner un Roumain, l'habitant de la Roumanie. En langue roumaine, on dirait Romain. Et les orateurs nationaux, ils répètent tout le temps ce mot, mais à une voyelle près, c'est le même mot que tzigane.
Dites-nous, Joseph, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la culture rome?
Mais pendant longtemps, j'aimais ou j'étais attiré sans trop savoir pourquoi. Ou plutôt, bon, j'avais été frappé par des détails. Le travail du bois dans la Roumanie profonde. J'avais visité certains villages traditionnels roms qui m'avaient beaucoup donné à réfléchir. Parce qu'avant d'y aller, j'étais quasiment sur le point de demander l'extrême onction. Alors qu'en fait, il s'agissait de villages fort sympathiques, des souvenirs ponctuels. Mais je n'avais pas compris ce que, en vérité, je partageais avec les roms.
Et alors, vous semblez avoir compris depuis. Alors, que partagez-vous?
Mais peut-être deux éléments, Sophie. D'une part, les Roms sont un peu dans la même situation que les autistes. Ils sont comme les autres, mais pas tout à fait. Et d'autre part, les Roms utilisent parfois exactement la même astuce que certains camarades autistes pour échapper aux discriminations, aller ailleurs. C'est simple. Dans son pays d'origine, un Rom risque d'être exclu à cause de son patronyme, de son apparence. Mais s'il part vivre au bout du monde, plus personne ne fait la distinction. Une fois, mes parents, ma sœur et moi étions en vacances en Suisse. Et soudain, il y avait une famille là-bas qui parlait tchèque. Donc évidemment, sympathie entre mes parents d'origine tchèque et eux. Donc mon père leur demande d'où ils étaient, où ils vivaient, etc. Question classique. Mais la petite famille, surprise, surprise, vivait en Inde. Ou plutôt était partie vivre. Bon, le père de famille était rom. Il avait été victime de discrimination dans son propre pays, tout comme ses enfants. Je n'oublierai pas le garçon en face de moi qui m'avait rapporté les insultes et menaces dont il avait fait l'objet. Sauf que, miracle, en Inde, ce problème avait disparu. Pour tous, là-bas, la petite famille était une famille d'occidentaux, point. Et j'avais envie de reprendre à mon compte un fameux dicton rom. Dans cette culture, quand on apprécie quelqu'un, on lui dit parfois « Mais man gafte yaf ando granitsa tumensa » Donc, je veux passer la frontière avec toi, aller au loin. C'est toute une philosophie.
Décidément, vous êtes un nomade, Joseph.
Tout à fait, nomade heureux.
Merci en tout cas beaucoup pour ce regard, cette ouverture que vous nous proposez. Et à dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez réécouter, partager l'émission grâce au podcast que vous trouverez sur europe1.fr, bien sûr. La réalisation de cette émission est signée Sophie Mallier. Florence Gimalak m'a aidé à la préparer. Merci à elle et aux reporters d'Europe 1. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, sans faute. D'ici là, surtout, portez-vous bien.